Salut, salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes vos bonnes plateformes de balado. On est également diffusé à BPM Sport tous les lundis soirs, incluant les lundis de congé férié, mais pas de congé pour le podcast Sur la ligne. Messieurs, je suis content de vous retrouver. Je suis arrivé très tard hier de la Coupe de la finale de la LHGMQ. Quel beau spectacle on a eu. Félicitations aux Remparts de Québec qui sont champions du hockey junior québécois, qui seront nos représentants à la Coupe Memorial. Je suis arrivé d'Halifax très, très tard ce matin. En fait, Nicolas Richard, toi, comment te portes-tu? Je sais que tu as couvert un peu de hockey junior il n'y a pas si longtemps par ailleurs. L'as-tu suivi un petit peu par curiosité la finale?
Oui, du mieux que j'ai pu. J'étais quand même affecté au championnat de la PGA en fin de semaine, donc ça a été pas mal focusé sur le golf. Il en demeure pas moins que je surveille évidemment avec attention tout ce qui se passe dans le monde sportif. Et belle victoire, tu l'as dit, des Remparts, club que j'affectionne particulièrement, club avec lequel je tombe en amour à l'époque de Brent Aubin, Angelus Pousito, Cédric Desjardins notamment, autour de 2008-2009, je ne m'abuse. Là. Belle victoire des Remparts aussi, un peu de tennis évidemment, parce qu'il fallait s'y mettre. Hein, Roland Garros s'approche, donc voilà, ça a été une fin de semaine sportive comme d'habitude.
Et est-ce que tu nous prépares de grands dossiers dans la presse prochainement? Sur quoi travailles-tu présentement?
Ben là, c'est Roland Garros temps plein. Hein, ça arrive quand même assez rapidement. Là, donc, on s'en parle hors d'onde. Là, il y a plusieurs dossiers qui arrivent. Plusieurs dossiers intéressants aussi, desquels on va parler aujourd'hui dans l'émission. Donc, ça risque d'être un autre grand chelem palpitant et pas seulement pour l'aspect tennistique du tournoi.
Ça, t'as bien raison. Hugues, comment te portes-tu? J'ai su entre les branches que tu es allé échanger quelques balles avec l'excellent Abraham Santor. Veux-tu nous dire comment ça s'est passé?
Oui, on profite du beau temps sur les terrains de Farnham. Il fait beau ce matin. Moi, j'avais un cours, je donnais un cours à un de mes élèves réguliers qui joue dans la Ligue pyramidale de tennis Montréal, qui a beaucoup de succès. Donc, c'est un bel endroit pour donner des cours. Oui, on a frappé avec Abraham. Abraham qui est en forme, qui m'a pris un set aujourd'hui. Donc, chapeau Abraham. Puis, je tiens à dire aussi que c'était le week-end des tournois, des finales, des centres de développement de l'élite, donc des CDT, dont fait partie Tennis Montréal, l'Île des Sœurs, Tennis 13, avec l'équipe de Robbie Ménard notamment, et l'équipe de Sébastien Prieur pour Tennis Montréal, au Mont-Tremblant. Grand week-end, donc, pour la Coupe des clubs. Hein, on peut dire ça là, pour les 12 ans, 18 ans. On va avoir les résultats en fin de journée aujourd'hui, mais on voit que la saison extérieure est bien commencée là, au Québec en ce moment.
C'est quoi une ligue pyramidale? C'est-tu une ligue où tu dois déranger tous tes amis, les inviter dans des soirées de motivation et puis après ça, faire des vidéos sur tes médias sociaux pour dire que ça a changé ta vie, cette ligue pyramidale-là? Ben,
en gros, celui qui est en haut de la pyramide ramasse tout. C'est toujours le même concept. C'est mieux connu sous le nom d'une ligue échelle aussi, mais effectivement, c'est une ligue où tu lances des challenges aux gens qui sont classés plus haut que toi pour monter le plus haut possible.
Le concept est plus intéressant que vraiment c'était une blague de vente pyramidale. Non, c'est bien intéressant. Messieurs, félicitations à Abraham qui t'a pris un set. Et je veux aussi faire un petit message à Maxime Trouman qui travaille à BPM qui a pris la peine de m'appeler cette semaine. Il voulait vous dire qu'il nous trouvait pertinent, qu'il aime notre show, il nous écoute régulièrement. Alors, salutations à Maxime Trouman qui travaille avec Georges Larac à tous les jours. Alors, voilà, qui a pris la peine de nous appeler, de m'appeler en fait pour souligner son intérêt pour notre travail. Je voulais le saluer en retour. Bon, messieurs, on ne perdra pas trop de temps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées cette semaine. Et on a deux intervenantes qui vont venir un peu plus tard dans l'émission. Bon, commençons avec les hommes, si vous le voulez bien. Parce que cette semaine, quand j'ai appelé Hugues pour préparer le show, j'ai dit « Là, Medvedev, est-il un candidat à Roland-Garros? » Et là, c'était « Attendons de voir, on verra, pas sûr, mais quelle performance il a eu cette semaine à Rome, il est champion. » Que penser de cette finale-là? Comment tu as vu cette finale-là, Hugues?
Tout d'abord, je vais vous dire que ça me réjouit quand je vois Medvedev gagner. Je ne sais pas pourquoi, ça me remplit de plaisir de voir ce gars-là gagner des matchs de tennis. Et je vous dis pourquoi. encore une fois, il a trouvé une solution. Et là, ce n'est pas pour battre un adversaire dans n'importe quel tournoi, c'est pour maîtriser une surface qu'il détestait. Et on ne pensait pas, aucun d'entre nous autour de la table en ce moment, que Medvedev deviendrait un champion de Masters 1000 en terre battue il y a juste un an, où il disait « je déteste cette surface, je ne veux pas jouer ici, c'est pour les chiens, ça salit ». Écoute, il avait tout sorti là, dans le tournoi de Madrid il y a un an, et qui ne gagne pas le tournoi de Rome, dernier Masters 1000, avant Roland-Garros, qui est souvent un baromètre de Roland Garros, Daniil Medvedev qui bat Holger Rune et Tsitsipas en demi-finale, les deux joueurs en 2-7, deux spécialistes de terre battue en plus. Quelle performance de Daniil Medvedev! Est-ce que Daniil Medvedev est le nouveau roi de la terre battue? Je vous pose la question, les gars.
Ben Nico, je vais te laisser répondre. Hugues est passé de pas sûr qu'il peut se défendre comme il faut à Roland-Garros à roi de la terre.
Non, mais c'est une blague. C'est une blague. Je le mets sixième dans mon pool de Roland-Garros. Je le mets que sixième malgré tout.
En même temps, il a battu d'excellents joueurs. Je veux dire, Holger Rune en finale. Et surtout, je dirais, Tsitsipas en finale, Nico, il se donne même un méchant boost de confiance pour arriver à Roland-Garros.
Ben, je ne sais pas s'il est le roi de la terre battue, mais il est à tout le moins le roi de la saison 2023. Ouais, ouais. 4 victoires déjà. Les grands chelems aussi approchent. Roland-Garros, moi aussi, je ne suis pas certain. Wimbledon reste à voir, mais clairement, pour le US Open, il part, je pense, favori à l'heure où on se parle. Oui, Alcaraz, évidemment. Oui, Djoko, évidemment. Tsitsipas, Sinner, Félix. Mais il n'en demeure pas moins que le joueur le plus craint présentement sur le circuit, c'est Medvedev, et je ne vois pas ce qui pourrait venir changer la donne. Hugues l'a dit, il maîtrise les éléments, il est de plus en plus confiant, trouve des solutions. Ouais. Et je fais un parallèle avec Sabalenka, dans la mesure où il y a quelques années, on se disait ce qui lui manque ou ce qui leur manque, ça touche peut-être de calme ou de sérénité lorsque les moments les plus ardus se présentent. Medvedev a trouvé le moyen de réparer ces trucs-là. Même chose pour Sabalenka. Vraiment, Medvedev joue du tennis inspiré et inspirant.
Ça se défait ce que tu dis, Nico, là, c'était même pas dans les sujets, mais je trouve ça intéressant puisque tu nous y amènes. Medvedev, pour toi, est le joueur de l'année au moment où on se parle, plus que Alcaraz. Il a plus de titres qu'Alcaraz, mais en termes de Masters 1000, ça se défend. Donc, pour toi, il est le meilleur joueur au moment où on se parle.
C'est juste qu'Alcaraz livre ce à quoi on s'attendait. Tandis que Medvedev surpasse les attentes.
Ah oui,
on ne s'attendait pas, comme Hugues l'a dit, à un titre 1000 sur terre battue. Et pour moi, la différence, elle est là. Alcaraz, il est génial, il est brillant. Mais Medvedev, il est là où on ne l'attendait pas.
Les gars, n'oubliez pas qu'il a commencé l'année en bas du 10e rang mondial. Il était 12e au début de l'année. Il est 2e au classement aujourd'hui. Ça démontre qu'il a une année fabuleuse. Et ce qu'il a accéléré dans les dernières semaines, c'est justement cette performance sur les tournois de terre battue qui n'était pas prévisible entre nous. On voyait bien qu'il se préparait un peu plus, qu'il arrivait tôt à l'académie de Mouratoglou, qui l'a remercié hier, d'ailleurs, dans son discours d'acceptation du trophée. Donc, il prenait cette saison-là au sérieux, mais c'est sa performance sur terre battue depuis un mois qui fait qu'il arrive au 2e rang mondial aujourd'hui.
Ce qui est surprenant, c'est que non seulement il déteste les surfaces de terre battue, mais les surfaces lentes en général. À Indian Wells, c'était plein du fait que c'était tellement lent comme surface. C'est surprenant. Il a un style de jeu aussi qui généralement favorise sur des terrains plus rapides, quoique il bouge tellement bien derrière la ligne de fond que
Exact.
Nadal aussi a toujours joué très loin derrière la ligne de fond. Là. Mais bon, ça, c'est bien intéressant dans le cas de Medvedev. Pour ce qui est de la finale comme telle, Nico, tu vois ça comment, cette victoire-là contre Rune, particulièrement?
Ben oui, particulièrement Rune. Oui, ça, c'est un autre cas dont on reviendra.
Mon préféré.
Justement, Medvedev a trouvé le moyen de gagner. Rune avait le vent dans les voiles. C'est dur à dire parce que souvent, les gars, on parle de l'environnement. Puis on y reviendra à Rome avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est rare qu'il y ait deux joueurs détestables sur le même terrain en finale. On dirait qu'à certains moments, la foule se disait « Je suis en train de prendre pour Medvedev. Ah oui, faut que je l'haïsse. Ah, ils sont là. » Fait que je trouve qu'il y avait des moments, des fois, un peu chaotiques de ce côté-là, mais Medvedev a simplement prouvé que l'expérience a un prix. Rune, il est impeccable, il est génial. Il sera top 10 pour le reste de sa carrière, j'en suis convaincu. Mais dans les moments les plus serrés, les plus névralgiques, je pense que l'expérience de Medvedev est venu l'appuyer, il est venu l'aider. Et Rune, c'est une question de temps avant qu'il gagne à Roland Garros, j'en suis convaincu.
Je pense que les deux joueurs étaient nerveux en début de match, mais globalement, Medvedev a mieux géré la situation hier. On en parlait, Nico, tu le disais un petit peu plus tôt. Moi, c'est effectivement son calme dans les moments importants. Il rate pas quand il faut, quand vraiment ça compte vraiment. S'il faut qu'il reprenne un break ou s'il doit confirmer un break. Donc, tu sais, quand il gagne des 7-5, là, c'est signe qu'il y a eu quelques chances et qu'il a réussi au bon moment. Donc, il a montré une grande force mentale et je pense qu'il a un peu mieux maîtrisé la situation que Holger Rune, surtout en début de match hier. Mais je le répète, je suis impressionné comment il s'est ajusté sur cette surface-là. Son jeu, on retrouve son jeu qui joue sur toutes les surfaces. Il n'a pas changé de jeu. Il a juste un peu mieux compris, je dirais, quand accélérer ou quand être plus patient un peu. Il pouvait rentrer dans l'échange avec Rune et tenir l'échange pendant 10, 15, 20 coups. Il a introduit, comme beaucoup de joueurs d'ailleurs depuis 2 ans, on le sait, un drop shot offensive à son arsenal qui lui avait fait beaucoup de points. Encore une fois, un très haut taux de réussite. Et dernier point, son service est extrêmement efficace sur une surface où on dit souvent que le service est un petit peu moins important, mais il a gagné beaucoup de premières balles de service. Donc, son jeu est devenu efficace maintenant sur toutes les surfaces. Maintenant, il reste le gazon à prouver, je dirais, pour lui. Mais sinon, c'est un accomplissement qu'il faut souligner vraiment là, ce que Medvedev fait en ce moment.
Mais à ça, Hugues, j'ai envie d'ajouter que Medvedev, le point, c'est pas seulement qu'il est calme lorsqu'il rate, c'est aussi, puis corrigez-moi si je me trompe et que mon analyse est peut-être trop futile, mais c'est que même lorsqu'il rate, il est capable d'oublier. C'est-à-dire qu'à certaine époque, lorsqu'il ratait, on se disait, bon, ça y est, ça prenait 2, 3, 4, 5 points, parfois un jour complet avant de se dire, OK, il est de retour. Maintenant, fais une faute directe, au lieu de s'entêter, oublie ce qui vient de se passer et continue là où il avait laissé. Et ça, je trouve aussi que c'est une marque des grands champions, parce que Federer, Nadal, Djokovic, très, très rare que lorsqu'ils sont pris dans un nœud, continuent d'essayer de le défaire. On passe à autre chose, on oublie comme un gardien au hockey ultimement, ça revient au même. Mais Medvedev a cette faculté d'oubli notamment.
La relation avec Gilles Cervera, son coach français, est exceptionnelle. J'ai l'impression que les deux ont des très bonnes discussions. Je pense que cette capacité à trouver des solutions que Medvedev nous démontre vient aussi de l'intelligence de son coach, Gilles Cervera, avec qui il est depuis très longtemps. Et je pense que c'est un duo qui fonctionne très bien. C'est une réussite. Et je pense que la réaction de Cervera dans le box hier, quand Medvedev a finalement gagné le point de match, démontrait à quel point il y avait une joie et une surprise. Mais pour tout le travail qui a été accompli, je pense aussi, depuis un an ensemble.
5e titre pour Medvedev cette année. Je pense que c'est un sommet sur le circuit ATP cette année. Oui. 2e Masters 1000. Et on n'aurait pas prévu, comme vous l'aviez dit, un Masters 1000 sur terre battue. Et là, dans ce tournoi-là, il aura battu quand même Zverev, Tsitsipas et Rune. C'est quand même pas un tournoi si facile que ça ou un tableau si ouvert que ça sur terre battue pour Medvedev. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans l'émission, mais... Bon, je pense qu'il, sans être un candidat certain à la porte d'Auteuil,
qui sait,
il pourrait jouer les troubles fêtes certainement dans la mesure où c'est peut-être là qu'on pourrait le placer comme un gagnant wildcard, peut-être.
Mais ben c'est juste que c'est carrément le tournoi de Roland Garros le plus ouvert depuis 20 ans.
Bien sûr.
C'est carrément ça.
Oui, exact. C'est intéressant. Bon, du côté des femmes, messieurs, ça n'a pas été une finale aussi spectaculaire, aussi intéressante. Malheureusement, Kalanina s'est retirée. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait jaser à l'extérieur de cette finale-là. Mais il reste quand même, c'est un autre titre pour Rybakina, Nico, qui s'impose sans aucun doute. Et je ne dis pas qu'il y en avait il y a quelques semaines, mais certainement comme une des meilleures joueuses sur le circuit de la WTA.
Oui, complètement. Puis il y avait des doutes, notamment quant à la légitimité de ce titre-là, parce qu'il faut le dire, il faut le souligner, qu'elle a gagné 3 matchs par abandon, là, c'est-à-dire qu'il y a 3 joueuses au cours du tournoi qui ont cessé de jouer en raison de blessures, mais je pense que ça n'enlève pas la valeur de ce titre-là par la manière dont elle s'est comportée, c'est-à-dire que dans chacun de ces matchs où l'adversaire a fini par abandonner, elle menait. Elle avait le momentum. Elle aurait sans doute gagné quand même ces matchs-là. La bonne nouvelle, c'est qu'elle arrive peut-être plus reposée à Roland-Garros. Mais ce titre-là, sur terre battue confirme pour moi qu'il existe bel et bien un Big Three féminin avec Swiatek, Sabalenka et Rybakina. Je ne voudrais pas être parieur pour le tournoi de Roland-Garros parce que même si ça va se jouer entre ces trois-là, je pense, c'est tellement difficile de prévoir qui va l'emporter. La différence entre les trois est tellement mince. Mais si certains doutaient, d'une part, que Rybakina pouvait avoir l'ascendant sur terre battue, c'est confirmé. Que certains doutaient peut-être qu'il y avait un top three, ben c'est confirmé aussi qu'il y en a.
En tout cas, il y a certainement un top 3 2023, ça, c'est sûr. Et je comprends où tu vas en venir en disant, bon, certains ont remis en doute la légitimité ou la validité de cette conquête-là, mais il reste qu'elle a battu Vandrousova dans ce tournoi-là, finaliste à Roland-Garros. Bon, Swiatek s'est retirée, mais comme tu le disais, elle avait gagné le deuxième set. Elle était en avance dans ce match-là. Elle a battu Ostapenko, ancienne championne à Roland-Garros. Je veux dire, à un moment donné, oui, la finale s'est retirée, oui, il y a eu trois joueurs, mais elle a battu d'excellentes joueuses dans ce tournoi-là. Hugues, victoire de Rybakina.
Oui, premièrement, elle est quatrième mondiale ce matin, donc elle continue de progresser de belle façon, Rybakina. Kalinina, c'était une finaliste surprise. Donc, elle a fait vraiment un très, très beau tournoi, mais je pense qu'avec la blessure de Swiatek à Rome, Rybakina devient une prétendante sérieuse pour Roland-Garros tout de suite. Donc, je ne suis pas certain, je lisais sur Swiatek ce matin, il y a un doute encore. Elle dit qu'elle est confiante, elle est confiante malgré tout, mais elle n'est pas dans les meilleures dispositions. Donc, la performance de Rybakina à Rome la met vraiment là, comme une des trois favorites, assurément, à Roland-Garros. On a hâte de voir si Sabalenka se sera bien reposée. On a vu cette semaine qu'elle a profité du temps pardonnez mon anglais, qu'elle avait cette semaine après sa sortie rapide à Rome. Mais comme disait Nico, autant du côté féminin que du côté masculin, c'est pour une des premières fois une année à Roland-Garros où il peut se passer plein de choses. Et on va avoir plein de surprises selon moi. Oui, on va avoir les favoris qu'on sait, on va parler un petit peu plus tard, mais je pense qu'il peut y avoir des surprises tant du côté féminin que du côté masculin.
Ah, c'est intéressant ça. Peut-être qu'effectivement, on aura des champions un peu surprises, difficiles. Bien malin, celui qui pourrait prédire qu'est-ce qui va se passer dans ce tournoi-là. C'est un deuxième titre cette année pour Rybakina quand même. Et ces deux titres d'importance, elle avait remporté une Indienne un peu plus tôt cette année et là, maintenant, à Rome. Et je rappelle qu'elle était finaliste en Australie et à Miami. Déjà une année exceptionnelle pour Rybakina qui continue de prouver jour après jour, et on en parle après presque chacun de ses succès, mais que sa victoire à Wimbledon l'année passée, en dépit de tout ce qui s'était passé, était plus que légitime. Messieurs, on va faire, avant qu'on fasse une courte pause, Hugues, tu t'es entretenu avec Sarah Jade, qui est membre du podcast, notre spécialiste des médias sociaux, c'est elle qui organise toute la stratégie de médias sociaux. Ben, elle était à Rome dans un mandat pour Tennis Canada. Garde, je vais te laisser lancer l'entrevue puisque c'est toi qui y as parlé, juste avant la finale, et c'était une discussion bien intéressante.
Bien, Sarah Jade, qui comme nous est une passionnée de tennis, donc quand elle peut jouer inutile à l'agréable, elle le fait. On la voit dans des challengers à Granby, à Montréal et maintenant à Rome. Donc elle était effectivement en mission photo, parce qu'une photographe de très grand talent pour Tennis Canada. Ouais. Et on a profité évidemment pour faire une petite discussion sur son feeling de l'ambiance à Rome, des sujets chauds du moment. On sait que les horaires ont été un problème toute la semaine. Oui, il y a plu. C'était pas facile pour les organisateurs à Rome, mais Sarah Jade nous fait un petit résumé là, du feeling et de la situation au Masters WTA 1000 de Rome. On est bien chanceux de l'avoir avec nous.
Parfait, on écoute ça.
Comment ça va, Sarah Jade?
Ça va bien, merci. Et toi?
Ça va très bien. Comment t'as trouvé tes quelques jours à Rome jusqu'à maintenant? On se parle juste avant la finale Homme en ce moment là pour placer les choses.
Oui, la finale qui est décalée en raison de la pluie. c'est, je pense, le mot-clé du tournoi, là, pluie tout le temps. Mais mis à part ça, je te dirais que c'est vraiment une belle expérience. Les terrains sont beaux, l'ambiance est le fun, le site, il y a de la verdure partout, il y a le deuxième terrain, si je peux dire, il y a des statues qui représentent les sports. Enfin, c'est vraiment, c'est un autre monde, là, mais c'est vraiment une belle expérience.
Sarah Jade, dis-nous le Foro Italico, qui est le site du tournoi, c'est où par rapport au centre de Rome, en fait? T'es où exactement en ce moment?
Je te dirais que c'est... Je ne suis pas la top en géographie, mais on est à peu près à 40 minutes de marche du Vatican.
OK.
Fait que, tu sais, tout se fait bien à la marche. Moi, je ne loue pas de voiture parce que je refuse de conduire ici. Il y a beaucoup de trottinettes électriques. Je ne suis pas prête encore parce que c'est des rues en rond. Fait que, tu fais tout le temps des détours qu'on dirait que tu tournes en rond. Fait que, tu sais, on dirait en trottinette, tu vas un peu vite, tu as un trou, ça pourrait mal tourner. Fait que moi, je marche un petit 40 minutes, 20 à 40 minutes selon il est quelle heure. c'est un peu éloigné, je te dirais. Là, parce que c'est une section où il y a tous les sports qu'il y a ici. Fait que tu as tous les terrains.
C'est un centre sportif, en fait.
Exact. Oui. T'as le truc d'aviron pas loin, t'as plein de terrains de tennis. Je me suis promenée un peu plus loin, mais il y a même le stade olympique qu'on voit à côté. Là. C'est vraiment le département des sports, si on peut dire.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont dit qu'un des petits perks de jouer à Rome, c'est les gelatos. Alors, dis-nous, est-ce que tu manges bien, puisque tu t'es fait quelques gelatos sur la route du stade?
J'en ai pris un, mon premier, ce matin. Parce que, tu sais, avec la pluie, on est au tournoi, fait qu'on n'est pas, on sort pas tant que ça, puis quand on sort, ben c'est fermé. Puis ce matin, gelato fraise, parce que j'ai remarqué à Rome, il n'y a pas beaucoup de déjeuner avec des fruits. Puis j'avais vraiment envie de manger des fraises. Fait que je me suis pris un gelato à la fraise. Puis il était vraiment bon, puis il faisait chaud ce matin, il faisait gros soleil, vraiment chaud. Fait que mon gelato, je l'ai vraiment aimé. Il a fait du bien.
Il y a beaucoup de joueurs qui disaient qu'on était contents de gagner un tour de plus, non seulement pour avancer dans le tournoi, mais pour pouvoir prendre une journée de plus avec des gelatos.
Des gelatos, ouais, mais je te dis, je pense que ça va devenir mon classique.
C'est bien.
Un gelato par jour, éloigne le médecin pour
c'est un, ouais, c'est un bon dicton, ça, j'embarque là-dedans, moi aussi. revenons un peu plus sur le terrain. Alors, évidemment, on voit que la pluie s'est invitée dans ce tournoi-là. Ça a été compliqué. La finale des femmes a commencé après 11h, heure locale, hier. Mais tu as vu des beaux matchs quand même, là, deux belles demi-finales quand même côté hommes entre Medvedev et Tsitsipas. Medvedev qui se révèle sur terre battue en ce moment. Et Rune contre Casper Ruud aussi qui fait un bon tournoi. Donc, parle-nous un peu du tennis que tu as vu.
Ben, c'était deux bonnes demi-finales. Chez les hommes, je pense qu'on n'aurait pas pu demander mieux. Tsitsipas sur terre battue, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver. Ben, peut-être un petit peu éventuellement, mais on sait que c'est une question de temps avant qu'il gagne quelque chose comme un grand chelem. Sinon, Medvedev, c'est Medvedev. Alors, il y a un match, il peut échapper quelques points, tu sais pas où il s'en va, mais il va revenir, puis il va finir ça avec une petite danse, qui est un petit grimace, je pense, à Tsitsipas qui avait dansé en battant à Cincinnati l'année passée. Et je pense que c'est comme une petite vengeance, si on veut, mais ça fait partie du spectacle. Puis je pense que les Italiens aiment ça, ce genre de choses-là. Je pense qu'ils aiment l'ambiance, un peu le drama peut-être, là, avec Rune des fois aussi. Je pense que c'est un bon endroit pour faire ce genre de petites choses-là.
Avant qu'on parle de tes prédictions pour la finale homme, parle-nous un peu de la finale femme qui a commencé très tard. La foule n'avait pas l'air très contente de la situation là, tout le long du match, et durant même la cérémonie. C'est malheureusement terminé là, par le retrait, victoire par forfait là, de Rybakina. Mais parlons un peu de ta soirée hier avec la finale femme.
On a été presque 5 heures entre le dernier point des hommes puis la continuité du match. Puis après, la finale des femmes est comme... Ils sont embarqués sur le terrain, les filles étaient comme 11h, 11h30.
C'est ça.
Fait que tu sais, t'as comme ta journée que t'as pas fait grand-chose, mais que t'as quand même fait des affaires. Puis là, t'es en mode « faut que je reste éveillée », mais je suis comme un peu sur les freins. Mais tu sais, il faisait froid, il mouillassait un petit peu, c'était un peu spécial comme finale. Puis il y avait des huées tout le long du match, dans la cérémonie aussi. Il fallait que le présentateur demande aux gens d'être respectueux, parce que là, il y avait les organisateurs qui se faisaient huer, mais des fois, c'était aussi les joueuses, puis c'est là que c'était un petit peu malaisant. Moi, j'avais quand même un malaise de voir les joueuses qui étaient elles aussi mal à l'aise de parler, tu sais, Rybakina était, tu sais, déjà que est vraiment gênée, elle, dans la vie. Puis était juste pas bien, là, tu sais, à un moment donné, je l'ai comme vu, elle voulait pas parler, puis elle a comme un peu décalé le micro, puis, tu sais, il s'est passé des choses en arrière qui ont fait qu'elle a parlé. Ouais. Mais, tu sais, ça, c'était... Je ne sais pas si c'était la meilleure des idées de jouer la finale suivant le match des hommes, qui a failli aller en 3-7, il ne faut pas l'oublier, là, parce que Medvedev, à un moment donné, il a failli... il s'est fait briser, je pense, une ou deux fois, puis Tsitsipas avait le dessus dans le deuxième. Fait que ça aurait pu finir, ça aurait pu commencer encore plus tard, la finale des femmes. Fait que moi, je me questionnais aussi, même pour l'équipe, les bénévoles, il y a des journalistes, des photographes, tout le monde, on est tous restés parce que c'était la finale. On ne peut pas s'en aller, il faut la photo du trophée. À réfléchir.
Oui, oui. C'est surtout que ça fait la deuxième semaine. On sait qu'il y a eu un peu de controverse aussi à Madrid avec le double féminin. On sait qu'il y avait eu des controverses l'an passé avec les Night Sessions à Roland-Garros. Donc, je pense que le sujet va continuer de la cédule et des horaires pour les matchs féminins, surtout pour une finale. Donc, c'est un sujet, je pense, dont on va entendre parler dans les prochaines semaines.
Ben oui. Puis, tu sais, le stade était plus rempli là, à ce temps-là. Il y avait encore des gens, mais c'était pas 100% de billets vendus, ben de places assises assignées, en tout cas, si je veux dire. Là.
Bon. À suivre. Donc, ben écoute, parle-nous un peu à quelques minutes, on l'espère, si la pluie peut arrêter là, de la finale. Ouais. Parle-nous un peu de tes prédictions. Comment tu vois ce match-là, qui était quand même un match popcorn, comme on les appelle, sur la ligne, donc entre Medvedev et Rooney. Comment tu vois cette finale-là?
Moi, je m'attends à un bon spectacle. Un bon match de tennis de un, mais aussi un bon spectacle parce que les deux gars sont capables du meilleur comme du pire. Ça, c'est la première chose. Mais ils sont capables aussi soit de se mettre la foule derrière eux ou de se mettre la foule à dos un petit peu. Fait que l'histoire du match, je pense, va s'écrire dans les premiers points. Ça va se jouer là. Ça va être... Il va falloir découvrir un peu ça va être quoi l'attitude des deux gars. Fait que moi, j'ai bien, bien hâte. J'aurais tendance à dire que Rooney va gagner ça. Mais après, je pense que c'est un pile ou face, là. Fait que ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Puis ça serait le premier Masters 1000 sur terre battue, je pense, à Medvedev.
Oui.
Et je pense que la motivation va être vraiment là pour lui. J'irais avec Rooney, de mon côté.
Je pense que c'est un bon choix, mais Medvedev est vraiment surprenant. Puis qui aurait pu dire, il y a seulement un mois et demi, que Medvedev aurait une meilleure fiche sur terre battue que Novak Djokovic cette année. Donc, c'est quand même une révélation, Medvedev sur terre battue. Là. Donc,
c'est surprenant. Ça va devenir sa surface préférée.
Qui sait? Ben écoute, tant mieux pour lui. Peut-être. Oui, tant mieux pour nous.
Ben oui. Ça fait juste de lui quelqu'un, un joueur un peu plus dangereux sur toutes les surfaces. Ça va être bon pour le tennis dans les prochaines années. Là,
puis d'accord avec toi.
Puis la Medvedev, compétition générale.
Exact. Puis il nous démontre encore que c'est un joueur qui trouve des solutions. C'est ce qu'on dit tout le temps. Quand il y a des situations de match compliquées, c'est un des joueurs qui est au niveau tactique qui sait, durant un match, il sait s'ajuster. Il perd souvent le premier set, mais il se replace après puis il gagne le match. Mais là, il a trouvé une solution carrément sur une nouvelle surface. Ce qui m'impressionne vraiment encore plus de Medvedev, là, c'est un joueur très intelligent qui est un grand tacticien du tennis. Et le fait de pouvoir jouer sur une surface qui n'est pas naturelle pour lui à ce niveau-là, ça révèle à quel point c'est un joueur vraiment de caractère et très intelligent.
Oui, puis il est bon. Là. On le voit, là, il est à un autre niveau sur le terrain.
Oui, c'est clair. Ben écoute, je ne te retiendrai pas beaucoup plus longtemps. On va te regarder sur l'écran de télévision. Tu nous fais un petit halo si jamais tu nous vois. Sarah Champagne, donc, qui est une photographe de grand talent, qui est en mission pour Tennis Canada et pour Sur la Ligne en ce moment à Rome. Donc, bonne tournée européenne. On se reparle très bientôt, Sarah. Merci encore.
Merci, Hugues. À bientôt.
Arrivederci.
Très intéressant, une fois de plus, cette conversation-là. Merci à Sarah Jade. Tu mentionnais avant l'entrevue qu'elle était une photographe de grand talent et on n'en parle pas assez parce que nous, on la connaît depuis très longtemps, mais elle est excellente. Et merci aussi, Sarah Jade, pour tout ton travail cette semaine. Tu nous as envoyé des vidéos, des photos. Ça a été assez...
Olga Rouillet a même repartagé une des stories de Sarah Jade sur la ligne.
Ben, écoutez, on commence à être big, là. Faut se l'admettre, là. Écoutez, on a été partout cette année, là. On a été à Indian Wells, on est central à l'Omnium Banque Nationale, et je vous garantis que je vais essayer d'aller faire un petit tour au US Open. On va regarder ça si c'est possible. Et Nico sera à Toronto, lui. Alors, on se promène déjà pas mal. On commence à être un peu comme Medvedev, là, à avoir des tentacules un peu partout, là, sur la planète tennis. Messieurs, on va faire une courte pause et au retour, on va revenir. Je veux qu'on revienne sur cette controverse dont vous avez parlé un peu là, de ce qui s'est passé du côté des femmes. Et puis, on va regarder ce qui va se passer à Roland-Garros. Mais avant, Félix à Lyon.
L'Hôtel Montville s'associe au pique-nique électronique pour offrir à ses clients des places à un tarif préférentiel. Le pique-nique électronique, c'est LE lieu de rencontre par excellence des amateurs de musique électronique à Montréal. Ne ratez pas cette occasion. Rendez-vous à la réception de l'hôtel pendant votre séjour. L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit-déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Avant la pause, Hugues s'est entretenu avec Sarah Jade. C'était une conversation bien intéressante. On est tous jaloux d'avoir vu Sarah Jade prendre des photos en direct du terrain sur Rome. Et elle a pu assister, vous en avez parlé un peu, à toute cette controverse par rapport aux horaires. Et là, ça fait deux gros tournois qui se mettent un peu dans le trouble avec les horaires et particulièrement du côté féminin. Hugues, peux-tu juste un peu réexpliquer la situation et puis, on va en discuter un peu par la suite. Non?
Ben, on avait parlé de la finale du double féminin à Madrid où c'était terminé très tard et les organisateurs avaient empêché les gagnantes Goff et Pegula de s'exprimer lors de la remise du trophée, ce qui avait déclenché une vague sur les réseaux sociaux d'indignation, c'est pas acceptable en 2023, évidemment. Et rebelote sur un sujet semblable cette semaine à Rome pour la finale qui a débuté très, très tard. Oui, il y a plu. Oui, c'était compliqué pour les organisateurs de tout rentrer sur l'horaire quotidien, mais on voit que ces tournois sur 10 jours où les hommes et les femmes sont là ensemble, où il n'y a pas de toit, je le dis aussi parce que ça a une influence, évidemment, sur le planning, ça pose des casse-têtes majeurs. Donc, la finale féminine qui commence après 11h, heure locale, c'était pas excellent. Donc, la foule l'a d'ailleurs fait savoir, beaucoup de mécontentement, ça huait, ça sifflait durant la remise des trophées. Ces huées étaient dirigées non pas aux joueuses, mais aux organisateurs. Les gens n'étaient pas contents de comment ça s'était passé. Il y a eu un peu une controverse sur le prix des billets qui avait beaucoup augmenté à Rome. On sait que c'est un tournoi qui a beaucoup souffert financièrement durant la pandémie. Des prize money très, très, avec un gros écart entre les hommes et les femmes, là, c'est du simple au double, en gros, là, près de 3,6 millions d'euros pour les femmes et près de 8 millions pour les hommes. C'est quand même un écart qui est important. Mais ça fait deux tournois où la WTA fait face à des horaires qui n'ont pas d'allure pour leur match de finale. C'est ça le point majeur.
Et deux fois pour les femmes.
Et deux fois pour les... Exactement. C'est vraiment la WTA qui fait face au problème. Là, la pression commence à monter. Donc, cette finale qui s'est terminée par forfait, finalement, pour les femmes, commençait beaucoup trop tard. Là. C'est sûr que c'est un problème qui va devoir être adressé dans les prochaines semaines.
C'était quelque chose comme 11h, heure locale, là, quelque chose du genre.
Commencer après 11h, heure locale, ouais. Exactement.
Ouais, ce qui est, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas si rare que ça, en le sens que on le voit au US Open, que des matchs commencent très tard, là, mais 11h le soir, c'est très, très, très...
C'est pas pour une finale, c'est pas acceptable. Puis
on
revient, une finale en simple, là, encore une fois, il y a une discrimination entre le simple et le double, mais on revient là, sur le planning des matchs féminins et le planning pour les horaires télé. Donc, les organisateurs locaux, on dirait, semblent un peu moins préoccupés en Europe quand la finale commence tard ou les matchs commencent tard, parce que du côté nord-américain, les gros marchés télé, ça reste des heures acceptables. Ça va être à 4h, 5h, 6h, fin de journée. Même un match qui se termine tard durant la nuit, aux petites heures du matin, va rester en heure d'écoute, qui arrive presque en prime time du côté nord-américain. Donc là, il y a toute une planification à jongler avec des intérêts qui sont divergents entre les diffuseurs et les joueuses, notamment. Et c'est un sujet qui va être encore présent à Roland-Garros, je vous le dis, cette année, avec ces fameuses night sessions diffusées sur Amazon Prime Vidéo, où il y avait eu de la controverse l'an passé et on le sait, déjà Amélie Mauresmo a dit on va devoir donner plus de place au match féminin en session prime time cette année. Mm-hmm. J'ai hâte de voir comment ça va se passer à Roland-Garros.
De toute façon, honnêtement, je pense qu'a priori, là, peut-être à part le facteur Carlos Alcaraz, ce sera peut-être plus intéressant de voir avec le Big Three féminin pour les codes d'écoute. Là, j'ai bien hâte de voir ça. Et c'est ce que j'allais dire, c'est que le débat a presque commencé exactement là, l'année passée, à Roland-Garros. Oui. Et puis, ce que je trouve un peu bizarre, c'est qu'on n'ait pas appris de cette situation-là après la vague. Et là, c'est toujours un côté féminin, en plus, qui est pris avec ça. Enfin, une autre controverse dans un tournoi. Enfin, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ce sera l'année prochaine. Si on en parle encore, ce sera peut-être un problème. Bon, parlant de Roland-Garros, messieurs, on va y arriver dans pas long, mais juste avant, je veux qu'on parle de Félix à Lyon. Nico, tu vois ça comment, le fait qu'il jouera ce tournoi-là? Tu t'attends à quoi?
Ben, est-ce qu'il y a une manière de voir ça? C'est plus du fait qu'il faut qu'il se rode, tout simplement. Mais je pense que nos attentes sont au plus bas pour Roland-Garros. Ultimement, c'est de gagner des matchs. On le répétera jamais assez. C'est la clé au tennis, le momentum, le rythme. Mais comment voir ça autre que souhaitons-lui bonne chance en espérant qu'il arrive plus près qu'il l'est maintenant pour Roland-Garros. Je sais qu'Adidas l'ont en très haute estime, Félix, pour Roland-Garros. Là, déjà des images de publicité puis déjà des trademarks qui sont faits sur Instagram, notamment Twitter aussi, avec Félix comme, comme grande vedette, comme tête d'affiche d'Adidas pour ce tournoi-là. Reste à voir comment ça va aller, mais on ne peut pas dire que Félix arrive là confiant nécessairement.
Il est 28e à la race, ce qui pour moi donne une lecture plus juste de son niveau actuel, bien qu'il s'accroche au 10e rang au niveau du classement annuel ATP. Félix a besoin de rodage, comme tu le dis, Nico, il a besoin de match. Il a connu du succès à Lyon, c'était sa première victoire justement chez les professionnels, ce tournoi sur terre battue à Lyon, donc un ATP 250. Mais là, il faut qu'il gagne des tours. Là. S'il faut que ça se passe mal à Lyon en plus, ça va être un petit peu inquiétant pour Roland-Garros parce qu'il arrive sans repère.
Ben, il est première tête de série dans ce tournoi-là. Il y a quelques bons joueurs quand même dans ce tableau-là. Cameron Norrie est la deuxième tête de série. La bonne nouvelle, c'est que Cameron Norrie et Félix Auger-Aliassime, c'est peut-être... il a tous les misères à battre Félix, là, Cameron Norrie. Il y a Cerundolo qui est dans ce tableau-là également. Jack Draper et un certain Diego Schwartzman. Il y a quelques excellents joueurs. Tommy Paul aussi et Richard Gasquet. Pour affronter Richard Gasquet, peut-être lui... au troisième tour. Là. Alors, bien hâte de voir, mais effectivement, là, s'il pouvait au moins enchaîner quelques tours, c'est peut-être pas remporter le tournoi, et tant mieux s'il le remporte, mais ça prend des matchs. Ça prend des matchs. Ça fait quelques semaines qu'on le dit qu'il n'a pas gagné avec autant de régularité. Messieurs, Roland-Garros s'en vient, on en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Je veux savoir rapidement à quoi s'attendre, d'abord et avant tout, des Canadiens. Bon, on a parlé de Félix Auger-Aliassime. Est-ce que pour tout le reste des Canadiens, c'est la tendance des dernières semaines, Nico, on va prendre ce qui arrivera ou est-ce que tes attentes sont élevées quand même parce qu'on a quand même certains des meilleurs joueurs au monde?
Ah, il y a zéro attente. Zéro, zéro, zéro attente. Puis pour vrai, je ne veux pas être rabat-joie, mais je ne vois pas un Canadien ou une Canadienne en quart de finale, malheureusement. D'une part, parce que les résultats ne sont pas là. D'autre part, parce que le rythme et le momentum n'y sont pas. Mais aussi parce que c'est tellement ouvert que même les têtes de série comme Félix, notamment, sont assurés de rien. Ça pourrait peut-être avantager Leila. Peut-être que ça pourrait avantager Bianca. Qui sait? Mais ultimement, mes attentes sont au plus bas. Rarement, mes attentes envers les Canadiens ont été aussi basses depuis 2 ans, peut-être. Il n'y a rien qui se passe, les gars. C'est une période sombre, période creuse. Espérons qu'on se trompe. Espérons que nos Canadiens nous renversent en pleine face. Mais je ne vois pas comment on pourrait passer les quarts de finale cette année, malheureusement.
Hugues, je te regarde, tu sembles avoir le même état d'âme.
Oui, ben écoute, moi, j'ai un certain espoir pour Gabriel Diallo, bien qu'il y ait un premier tour de qualif qui est assez compliqué. Joueur qui était au même niveau que lui, en gros. Là. Mais Diallo pourrait peut-être se rendre sur le tableau principal. Félix, écoutez, encore une fois, quand on dit que le tableau est ouvert, ça veut dire qu'il peut peut-être nous surprendre, mais encore encore une fois, quand tu arrives sur terre battue sans aucun repère, c'est compliqué. C'est une séquence, là, c'est un feeling beaucoup, la terre battue. Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on glisse de la bonne manière? Est-ce qu'on est en contrôle? Donc, je m'attends pas plus à de grandes surprises.
Hein? Et le genou, Hugues, oublions pas le genou.
Exactement.
On s'est pas avec le genou.
Ouais, c'est une surface qui est quand même douce pour les pieds, mais qui peut être taxante aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de déplacements sur terre battue. Et souvent, c'est des longs échanges et des longs matchs.
Donc, en gros, on prendra ce qu'on prendra et puis ça sera ça. Ouais. OK. je veux vous entendre sur, avant qu'on aille sur les favoris, sur le fait que Rafael Nadal n'y sera pas. Je veux dire, est-ce que ça enlève quelque chose à l'édition actuelle de Roland-Garros?
Ben oui, Roland-Garros égale Rafael Nadal. Écoutez, il y avait déjà sa statue avant de prendre sa retraite. Elle est toujours là, d'ailleurs. Place des Mousquetaires sur le site. Oui, Roland-Garros et Nadal, ça va ensemble, ça va de pair. Je me souviens, moi, quand Borg avait gagné son 6e Roland-Garros dans les années 70, je m'étais dit, jamais ce record de 6 victoires sera égalé. Nadal est rendu à 14. Ce qui est triste, c'est qu'il n'ira pas chercher son 23e Grand Chelem. Djokovic est celui qui va sûrement atteindre ce chiffre 23 à Roland-Garros ou ailleurs. Mais oui, c'est une édition où il va manquer quelque chose d'important à Roland-Garros sans Rafael Nadal.
Nico, est-ce que ça perd son cachet? Et puis en même temps, bon, il a annoncé que 2024 allait être probablement sa dernière saison.
C'est dommage, mais c'est l'avenir, les gars. Malheureusement, on en est rendu là où deux des trois grands ténors de ce sport-là sont arrivés au bout du chemin. Honnêtement, tu sais, on s'étendra pas sur le sujet parce que ça date un peu, mais j'écoutais la conférence de Nadal parce que j'étais affecté à ça, justement. J'ai ressorti mon espagnol de secondaire 3. Puis honnêtement, je vois pas comment il pourrait se rendre à Roland-Garros 2024. Tu sais, honnêtement, les gars, là, je veux pas être prophète de malheur, là, mais Coupe Laver 2023 à Vancouver à l'automne, d'après moi, ne réservez rien parce que ça se peut que ce soit la dernière fois qu'on voit Nadal. Dans la position dans laquelle il est, dans le ton avec lequel il a fait sa conférence de presse, c'était funèbre, c'était presque funéraire comme ton. Je suis très, très peu optimiste qu'on revoie Nadal en tournoi du Grand Chelem.
Moi, j'ai tombé en bas de ma chaise, par contre, si c'est ça qui prend sa retraite en 2023. Le fait qu'il ait annoncé une tournée presque d'adieu en 2024, je pense qu'il va la faire.
Oui,
après ça.
Oui. Mais il l'a dit. Je ne sais pas si mon corps va suivre. Je veux la faire. Mais il dit, ça se peut que mon absence dure 1, 2 ou 4 mois. S'il voit qu'il n'y a pas le niveau, je ne pense pas que Nadal, c'est le genre de gars qui va faire une tournée d'adieu avec que des deuxièmes tours, tu comprends? Fait que je pense que s'il sait qu'il ne peut plus gagner, ce sera la fin.
Ah ouais, je ne sais pas. Moi, c'est drôle, je ne me suis pas posé la question comme ça, mais moi, je pense que parce qu'il a dit « je veux aller dans les tournois que j'ai aimés ». Et moi, ce qui m'a passé la première chose par la tête, c'est « Colin, on va peut-être avoir la chance de dire au revoir à Montréal ». Parce qu'il est venu à Montréal tout le temps. À chaque année, c'est un des plus grands champions de cette édition-là. Et ce sera les hommes en 2024.
Ben moi je trouve ça, moi aussi ça fait bizarre d'imaginer une tournée d'adieu en 2024 où il fait juste passer pour dire salut, je vous ai aimé, et je vous remercie et qui
perd contre
au deuxième tour. Et je vous rappelle André Agassi en 2005 à Montréal, l'année où Nadal a gagné son premier Masters 1000 sur dur, justement Agassi était dans sa tournée d'adieu, mais il a quand même fait la finale à Montréal, il a quand même fait le quart de finale au US Open, il était compétitif quand même. Donc un Nadal non compétitif, ça va pas avec le personnage, on dirait. C'est pour ça que moi aussi, j'ai un doute sur comment ça va se passer en 2024.
Peut-être que la seule issue, ce serait un Roland-Garros. Juste pour dire, finir, même si c'est un premier, deuxième, troisième tour, c'est-à-dire, je ne jouerai plus, mais mon dernier match à vie sera à la porte de Hauteuil. Oui. Quoi qu'il en soit, ça se peut. Mais une tournée d'adieu, j'en doute.
Bon, rapidement, messieurs, à quoi s'attendre Roland-Garros? Qui sont vos favoris? Hugues, je commence avec toi.
Très ouvert, puis je me suis gratté la tête pas mal parce que même avec les favoris qu'on connaît actuellement, qui ont une bonne séquence sur terre battue, c'était pas évident. Je vous donne mon top 6. Alcaraz, premier favori pour moi. Djoko en deuxième parce que ça va se jouer en 5-7 et je pense que ça peut l'avantager que ça joue en 5-7 au niveau de la gestion des matchs. Rune troisième, Tsitsipas quatrième, Medvedev cinquième, Casper Ruud sixième. Mais pour moi, c'est une année extrêmement ouverte. Il peut y avoir des surprises.
Casper Ruud t'a rassuré dans le dernier tournoi.
Le Messi,
il a fait. Donc, Medvedev est ton 7?
Cinquième,
excuse-moi. Nico, tu vois ça comment? Qui est ton favori? Non, ben, c'est correct.
J'ai pas de top 6 parce que contrairement à Hugues, je suis pas organisé. Mais c'est tellement dur parce que je pourrais vous donner un argument pour les 8 premiers au classement. Ouais. Il y aurait un argument en faveur de chacun d'entre eux, mais pour le moment, je vais y aller avec mon carré d'as. Là. Ce serait Alcaraz numéro 1, ce serait Djoko numéro 2, ce serait Medvedev 3 et Tsitsipas 4. C'est ce que j'entrevois. Mais en même temps, tu me dirais Rune, je te dirais complètement. Tu me dirais Sinner, ouais. Je te dirais il est temps. Tu me dirais Rood, je te dirais ben pourquoi pas. Fait que, mais Alcaraz, pour moi, est encore malgré tout en tête de liste.
Ouais, moi, je pense également qu'Alcaraz doit être le joueur à battre à Roland-Garros. Bon, il s'est enfargé là, dans son dernier tournoi. Je pense qu'il avait joué beaucoup. Il faisait que des finales, que des titres. Alors, je pense qu'il était fatigué un petit peu. Là, c'est reposé. Il va arriver à Roland-Garros, le couteau entre les dents. Moi, je pense que c'est lui qui va terminer avec le trophée entre les mains. Ouais. Je ne dis pas que c'est ça qui est arrivé, mais j'aime ton argument du 5-7, Hugues, pour Novak Djokovic. On sait à quel point il est résilient. Il n'est jamais battu. Et 5-7, effectivement, pourrait l'avantager. D'autant plus que et c'est peut-être un des joueurs qui va arriver le plus reposé. Il n'a presque pas joué cette année. Exact. Alors, si les matchs s'étirent, ça sera possiblement à son avantage. Très intéressant.
Les gars, qui sait si tout ça concernant Nadal n'était que mascarade et qu'il s'inscrit la veille du tournoi et qu'il remporte son 23e Grand Chelem?
Il prend une wild card.
Ouais, il prend une wild card.
Exact. Je veux m'entraîner un peu, je veux des répétitions. Faites-moi jouer les qualifs, puis je vais m'arranger après avec le reste.
Oui, il est tellement gros à Roland-Garros qu'ils ne donneront même pas de wildcard. Ils vont juste le placer quelque part dans le tableau. Puis ils vont dire, c'est le wildcard Raphaël Nadal. Tu peux t'inscrire quand tu veux.
Ou avec une statue, vient un bail jusqu'en demi-finale.
C'est comme au Masters, quand tu l'as gagné, tu peux t'inscrire à
exact,
vie. Là.
Exactement.
C'est la même chose. Tu peux, lui, il pourrait un bail jusqu'en demi-finale.
Mais les gars, je pense que c'est la première fois depuis 2004 que les 128 joueurs du tableau vont commencer en se disant « j'ai une chance peut-être cette année ». Ce qui n'était pas le cas à chaque fois que Raphaël Nadal était sur le tableau.
Et tu sais, trêve de plaisanterie, les gars, je suis le tennis environ depuis 2007-2008, depuis que j'ai à peu près 10 ans, puis je n'ai pas souvenir d'un tournoi où les prédictions sont aussi difficiles, sont aussi compliquées. J'essaie de me rappeler tantôt en faisant mes notes, puis je arrivais pas. Il n'y a aucun tournoi où c'était plus ouvert et où le nombre de prétendants était aussi élevé. Ça va être fascinant.
Et c'est probablement bon pour le tennis, quoique le Big Three a été tellement bon aussi, mais je pense que c'est bon là, que certains autres noms commencent à se mêler de l'action. Et du côté des femmes, messieurs, vous voyez qui? Champion, on a parlé d'un Big Three tout à l'heure. Est-ce que c'est ces trois femmes-là, Rybakina, Sabalenka et Swiatek, Nico, qui pourraient, qui seront les seules femmes à suivre?
Ça va être le top 3, les gars. Je suis convaincu. Je gagerai un poumon que ça va être deux de ces trois joueuses-là seront en finale et l'avantage ira à Sabalenka. Ce sera dit, elle va battre ou Swiatek ou Rybakina, mais Sabalenka, c'est son année, c'est son moment, c'est son tournoi.
Oui, je suis avec toi, Nico, là-dessus. Je pense que c'est l'année de Sabalenka. Elle a atteint un niveau de maturité, de confiance qu'elle n'avait pas encore en 2022. Je m'attends à un deuxième grand chelem pour elle à Roland-Garros. Swiatek va sûrement être affectée par sa blessure. C'est un long tournoi, grand chelem. Il faut 7 matchs. C'est sur 2 semaines. Donc, je m'attends à voir Rybakina aller très loin, mais je donne ma favorite numéro 1 va être Aryna Sabalenka.
Ce serait qui votre carré d'as? T'sais, on parle du top 3. Qui serait l'autre?
Attention à une certaine Ostapenko qui sait jouer sur terre battue. Contre toute attente, parce que je l'avais joué, puis à chaque fois, ça m'étonne qu'il y ait des victoires qu'elle a réussi à aller chercher. Mais Ostapenko pourrait faire partie du carré d'as cette année. Malgré tout ce qu'on en pense, là, c'est une joueuse qui a une qualité de tennis incroyable. Donc, pourquoi pas une Sabalenka pour le quatrième? Mais les trois autres sont loin en avant.
Moi, j'ai allé avec
Coco. Pas ta Garcia.
Ben, ça serait un choix intéressant en France, mais moi, je vais y aller avec Coco.
Ben c'est aussi, on est à la même place, Alex.
Nous, de notre côté, on va faire une courte pause et au retour, on accueille Mylène Matteau, notre chroniqueuse voyage, pour parler de la destination voyage à Paris.
L'Hôtel Montville s'associe au Pique-Nique électronique pour offrir à ses clients des places à un tarif préférentiel. Le Pique-Nique électronique, c'est LE lieu de rencontre par excellence des amateurs de musique électronique à Montréal. Ne ratez pas cette occasion. Rendez-vous à la réception de l'hôtel pendant votre séjour. L'Hôtel Montville est le choix idéal pour les voyageurs d'affaires en raison de son emplacement central à Montréal, de ses chambres modernes et équipées de tout ce dont vous avez besoin pour combiner travail et loisirs. Profitez de l'offre petit-déjeuner et stationnement pour un séjour tout en tranquillité. Rendez-vous sur hotelmontville.com.
Troisième et dernier bloc de l'émission, un bloc un peu plus léger parce que, bon, en prévision de Roland-Garros, j'ai demandé à notre chroniqueuse voyage, Mylène Matteau, de venir nous rejoindre pour nous parler de cette destination qui en fait rêver plusieurs années après année. Ben, en fait, une des destinations les plus intéressantes au monde. Mylène, merci de venir nous parler de Paris et de cette beauté en France, cette belle ville-là de Paris.
Bien, ça fait plaisir. Bonjour à vous trois. Je suis contente de vous retrouver.
Ben oui, ben nous aussi, on est contents. Est-ce que t'es remis les batteries rechargées? Je sais que tu arrives tout juste de vacances, un petit teint rouge, là, un petit peu de temps au soleil.
Tout à fait. Je viens de passer la semaine en République, là. Fait que ça fait du bien. Des vraies vacances. Des vraies vacances cette fois-là.
Bon, pas des vacances d'agent de voyage où on allait visiter, là. C'est vraiment des vacances pour te reposer.
Tout à fait.
Bon, bonne chose. All right. Mylène, ben merci de venir faire ton tour avec nous. Et puis, écoute, je regardais tes sujets. Il semble y avoir beaucoup de choses à faire. Il y en a un qui a attiré mon attention particulièrement. On y reviendra. Mais commençons avec, à Paris, il y a du tennis, il y a la Tour Eiffel, mais il y a une expérience culinaire immersive. Tu veux nous parler de ça? Si vous êtes un touriste, ça peut valoir la peine d'aller faire un tour dans ce genre d'événement?
Bien, c'est ça. En fait, je n'avais pas le goût de vous parler de la Tour Eiffel et des Champs-Élysées aujourd'hui. Je me disais, bon, on va aller ailleurs. Si vous êtes à votre première visite, bien sûr, vous allez faire les classiques, mais on a vraiment d'autres choses à faire. Alors, le groupe Ephemera, qui sont depuis un an, lance des expériences culinaires immersives. Le premier restaurant s'appelle Under the Sea. Il est dans le 13e arrondissement, dans une salle cachée d'une bibliothèque. Et vraiment, quand on rentre à l'intérieur, on est sous la mer et on a vraiment une expérience, là, comme je disais, immersive avec tous les sens. Et pour cette année, la nouvelle expérience s'appelle Stellar. Et là, on est en plein dans l'espace. Alors, on a vraiment toute la galaxie autour de nous. Et puis, comme je vous disais, son, lumière, visuel. C'est vraiment des expériences culinaires incroyables. Et puis, bien sûr, la nourriture est apprêtée là, selon les thématiques aussi. Alors, une belle expérience à vivre à ce moment-là.
Fait que dans l'espace, on a juste des Russian Pack.
Oui.
C'est juste des collations. Intéressant. Ça doit être assez... As-tu une idée de si c'est dispendieux ou pas, cette expérience-là?
Non, c'est ça. C'est une des expériences abordables aussi à Paris. Ils font le... Bon, déjeuner-dîner. Alors, le dîner pour nous et le souper qui sont disponibles là, au niveau des repas, mais tout à fait abordable là, comme expérience.
Puis sais-tu, là, peut-être que je te lance en dessous de l'autobus, mais sais-tu si le Under the Sea est une référence à la petite sirène?
Non, c'est pas. On retrouve pas la petite sirène. Là. On n'a vraiment pas une thématique Disney à ce moment-là, mais on est 20 000 lieues sous la mer là, avec des requins, des dauphins qui passent là, au niveau visuel. Là. Fait que vraiment, tous les murs sont animés. Là. C'est magnifique.
Si vous êtes un joueur de tennis, vous n'allez pas au bord, mais si vous êtes un touriste, peut-être que vous y allez, du moins pendant le tournoi. Tu voulais nous parler de deux bars, un bar clandestin, et puis moi, j'ai hâte de voir le bar à sieste. Ça m'allumait pas mal dans tes sujets. Vas-y donc avec le bar clandestin, le bar
Alors,
à sieste.
Alors, le bar clandestin, le Lavomatic, existe déjà depuis plusieurs années, mais on rentre dans la buanderie et trouver la machine à laver qui possède le bouton magique qui ouvrira la porte secrète vers le premier étage où on retrouvera un bar, là, comme je dirais, à thématique Prohibition 1920. Alors, on retourne dans ces années-là où, justement, on devait trouver des bars clandestins pour pouvoir consommer de l'alcool. Alors, là, le Vomatic vous permet de retrouver cette ambiance comme je vous disais, c'est une vraie buanderie. Là. On peut aller faire notre lessive, mais il y a une machine magique.
Ouais, j'ai déjà été dans un bar clandestin à Chicago où tu rentrais dans un magasin de linge et c'était carrément comme une porte de garde-robe que tu ouvrais en arrière d'un rack à linge, puis là, ça descendait vers un bar. Ça
devait c'est être, le même concept, tout à fait.
Le même principe. Et là, celui qui m'allumait, et je sais que Nico aussi doit bien l'aimer, c'est là le bar à sieste. Là, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce que c'est.
Le bar à sieste, le Zen Bar, qu'il s'appelle, il est dans le 2e arrondissement, tout près de l'Opéra. C'est carrément un oasis relaxant. Alors vraiment, on peut aller faire une sieste, on peut recevoir des massages, recevoir des soins de beauté. Et vraiment, il y a des cubicules et on peut tout simplement aller faire une sieste pour quelques instants si on est fatigué de notre journée pour se reposer. Alors c'est vraiment un bar à sieste.
Mais est-ce que c'est un endroit où on peut consommer de l'alcool ou ça n'a rien à voir là?
Ça s'appelle le bar à sieste, je pense, pour la formule, mais non, il n'y a pas d'alcool nécessairement. C'est vraiment un espace détente, comme je vous dis, un oasis relaxant là, pour se reposer.
Intéressant. Si vous êtes un fan d'Harry Potter, tu as aussi quelque chose pour nous à Paris?
Oui, alors la maison, la plus vieille maison de pierre en fait de Paris, elle date de 1407 et c'est la maison de Nicolas Flamel. Alors dans Harry Potter, il y a une référence justement à cet alchimiste qui est sur la rue Montmorency. Et puis
à côté du métro.
Oui, c'est ça. Et puis, vraiment, c'est un alchimiste de renom. Il est une légende. Et je parle d'Harry Potter, mais il est vraiment même dans Notre-Dame de Paris. Il y a un des personnages qui fait référence à Nicolas Flamel. Il porte un autre nom, mais il y a un alchimiste. Alors, vraiment, c'est un petit aparté là, si vous êtes fan de cinéma.
Tantôt, je disais, si vous êtes un joueur de tennis, vous n'allez peut-être pas au bar pendant le tournoi, mais peut-être que vous pouvez aller vous entraîner sur la piscine flottante. C'est quoi ça?
Tout à fait. La piscine Joséphine Baker, en fait, c'est sur la Seine. Alors, si vous voyez des photos, on est sur la Seine et la piscine flotte carrément. Elle est tout vitrée. Elle est couverte aussi. Fait que s'il y en a qui disent, ben, présentement à Paris, il fait que en moyenne 15-17 degrés. C'est un peu frisquet pour se baigner, mais la piscine est couverte. Et c'est une grande piscine qu'on peut faire des longueurs de l'entraînement. Il y a différents cours aussi qui est donné. Elle est ouverte à l'année. Alors, vraiment, de la façon que c'est placé aussi, c'est visuellement pour les touristes, c'est vraiment agréable de voir sur la Seine cette piscine-là là, qui flotte sur des quais.
Puis, est-ce que c'est une activité payante ou c'est juste offert à tout le monde, tu y vas, premier service?
C'est public, carrément. Fait qu'il y a peut-être des coûts là, quand même pour y aller, mais c'est une piscine publique.
Intéressant. Nico, tu es un gros fan de lecture, si je ne me trompe pas. Alors, Mylène, la plus vieille librairie, c'est-tu oui. La plus vieille librairie, une des plus vieilles au monde, j'imagine, de Paris?
Probablement, mais pour Paris, elle date de 1708 et c'est la librairie de la main. Mais vraiment, c'est une librairie pour les amateurs. Moi, j'en suis une, un petit rôle bibliothèque, là. J'adore vraiment, vraiment le look. Alors, on a des livres jusqu'au plafond. Il y a 25 000 titres qu'on retrouve dans cette librairie. Alors, vous allez avoir les fameux escaliers roulants là, où on peut se promener d'une étagère à l'autre pour trouver. Et ils ont environ 5000 titres aussi de livres anciens. Fait que vraiment, vraiment, là, tout ce qui est des manuscrits anciens, des livres anciens qui sont restaurés, qui sont conservés. Alors, une vraie petite perle là, comme librairie.
Intéressant. Est-ce que y a-t-il des documents historiques, là, mettons, bien connus? Je ne sais pas, peut-être que je te lance en dessous de l'autobus encore.
Non, oui, bien, j'ai lu brièvement sur les livres anciens, là, mais tout à fait, là, on a vraiment des ouvrages des années 1600-1700 qui sont conservés là, à cette librairie-là. Là.
Hugues, toi qui as voyagé beaucoup et qui connais quand même bien cet environnement-là, est-ce que ça te dit quelque chose des marchés de Paris 8?
Oui, oui.
Bon.
Ah, les marchés de Paris, excuse, c'est le 8 et c'est ton 8e sujet.
C'était mon huitième. En fait, Paris regorge de marchés. Hugues réagit, mais oui. Comme, oh oui. Mais vraiment, Paris va regorger de marchés. Il y en a plusieurs, en fait. Là. Le marché de Rungis, qui est le plus grand marché, le marché Saint-Denis, qu'on dit qu'il est le plus cosmopolitain, alors qu'on va retrouver vraiment, vraiment des produits de différents endroits dans le monde. Le marché des enfants rouges, c'est le plus ancien marché qui est couvert. Et le marché Barbès aussi, qui est un marché très international qui va se retrouver dans Montmartre. Alors, vraiment, si vous voulez vivre à la parisienne, aller dans les marchés est tout à fait vraiment là, la façon de s'imprégner de la vie à Paris.
Intéressant. Est-ce que tu es déjà allé, Hugues, dans les marchés à Paris?
Ben oui, il y a toujours moyen d'avoir des produits frais. Hein. Moi, j'ai vécu à Paris pendant 3 ans, donc à peu près tous les arrondissements ont leur marché local. Généralement, c'est le dimanche matin, donc tu fais tes emplettes, tu prends un petit café, un petit apéritif sur une terrasse avant de monter chez toi pour manger. Mais ça fait partie du côté un peu village qui reste quand même dans les arrondissements de Paris. C'est vraiment agréable. Et c'est vraiment le fun que tu nous parles, Mylène, aujourd'hui, parce que durant Roland-Garros, en fait, tout Paris, toute la France devient tennis durant ces 3 semaines-là. La ville vibre vraiment au rythme de Roland-Garros. Puis je tiens à rappeler que le tennis, c'est le 2e sport le plus pratiqué en France après le soccer, après le foot. Hein. Donc, ça fait partie de l'ADN des Français, le tennis. Mais c'est vraiment une période qui est vraiment le fun à Paris. Puis c'est une des répétitions, je dirais, avant les Olympiques de 2024. En Roland-Garros, c'est un événement international. Beaucoup de clientèle du monde entier qui vont être là pour le tournoi. Donc, c'est le moyen de faire une petite répétition aussi là, pour Paris avant les Olympiques de 2024.
Exact. Nico, justement, tu voulais rebondir là, avant qu'on laisse aller Mylène sur justement cette pratique-là par rapport aux Olympiques qui s'en viennent plus tôt que plus tard. D'ailleurs, c'est ton time to shine, les Olympiques.
Mais en fait, la question que je me pose depuis tantôt en vous écoutant parler, c'est, tu sais, on est dans une phase où les gens veulent découvrir de nouveaux pays, des trucs inexplorés, innovés. Mais Paris demeure quand même, j'ai l'impression, hyper populaire malgré tout. Tu sais, qu'est-ce qui explique ça?
Ben, c'est l'histoire, c'est la barrière de la langue qui est, ben, je dirais qu'il n'est pas là, mais quand même, les Français, des fois, ont de la misère à comprendre notre accent québécois. Mais au niveau de la clientèle québécoise qui ne parle pas nécessairement anglais, se retrouver à Paris, facilite vraiment le déplacement. Et puis, Paris, c'est la ville de l'amour, disons-le. Alors, pour un voyage en amoureux, on découvre les magnifiques endroits. Il y a toute l'histoire aussi. Tu sais, les bâtiments, là, c'est une architecture vraiment. Bien, c'est l'entrée de l'Europe aussi, mais c'est des architectures qu'on ne retrouve pas ici, là, de notre côté. Là. Fait que vraiment, il y a un attrait là, pour Paris.
Oui, évidemment, parce qu'il y a des centaines d'années entre le début de l'architecture européenne et celle ici en Amérique du Nord. Mylène, merci infiniment d'Accès et Croisières à Voyage. Justement, si on veut te rejoindre, faire appel à tes services, comment est-ce qu'on te rejoint?
Bien là, je vois la page Facebook qui est affichée. Fait que par la page Facebook, bien sûr, on a la messagerie qui fonctionne pour nous rejoindre. Les coordonnées sont là aussi. Et sur le site www.acev.ca.
Mylène Matteau, merci infiniment pour cette chronique. Une fois de plus sur Paris, vous allez à Roland-Garros, bien, vous avez peut-être un autre itinéraire, d'autres choses à voir et pour dire merci à Mylène pour ça. Mylène, merci infiniment et puis on se reparle très bientôt. Il y a d'autres gros tournois qui s'en viennent puis on fera le tour touristique de ces tournois-là.
Parfait. Merci, à la prochaine.
Bye-bye. Messieurs, c'est ce qui conclut déjà l'émission. C'était le dernier bloc, le bloc voyage de l'émission. Est-ce que ça vous donne le goût d'aller à Paris? Nico, t'es-tu déjà allé à Paris, toi?
Jamais été à Paris. Jamais été dans les Europes, point barre. Fait que...
Ah non, hein? Ah,
non. Voilà.
Moi, je suis allé une fois en France, c'était pour faire du ski, mais je n'étais pas proche de Paris. Mais voilà. Hugues, toi, est-ce que tu t'ennuies d'avoir...
Oui. Puis moi, écoutez, cette période 1, c'est une période sublime. Il commence à faire beau, il fait chaud. Ça s'adonnait que Roland-Garros était tout juste entre ma maison et mon bureau à Paris. Donc, j'étais dans le 16e arrondissement. Donc, sur les heures de lunch, je me sauvais du bureau pour aller voir les qualifications. Et j'ai des souvenirs incroyables des qualifications de Roland-Garros parce que les joueurs qui sont au qualif jouent pour leur vie. Là. C'est leur chance de rentrer sur un tableau du Grand Chelem. Fait que tu as des matchs extrêmement intéressants durant les qualifs. D'ailleurs, notre Gabriel Diallo est présent dans les qualifs cette semaine. Il jouera demain. Et j'ai un de mes plus beaux souvenirs du tennis quand j'étais allé pour les qualifs, mais j'étais tombé sur un entraînement de André Agassi en 1999 avec Brad Gilbert sur le court Suzanne Lenglen. Et c'est l'année qui avait gagné finalement son premier Roland-Garros contre toute attente après avoir tombé à la 137e position mondiale. Donc, quand on va aux qualifs, des fois, on a des belles surprises qui nous attendent. Donc, j'ai des beaux souvenirs de Roland-Garros à ce temps-ci de l'année, en effet.
Bon, mais écoute, on est tous jaloux de ce que tu viens de nous dire là. Le bon Hugues là, qui entendait les meilleurs joueurs au monde presque de de son bureau frapper des balles. Intéressant. Nico, comme c'est la tradition et comme c'est maintenant chose très importante de l'émission, je t'offre le privilège de terminer le nouvel épisode de Sur la ligne.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis tout le monde.